Chers fidèles, ce dimanche, nous suspendons l'explication du catéchisme du Concile de Trente pour aborder une question que chaque homme, qu'il soit croyant ou athée, a dû se poser au moins une fois dans sa vie. Dès le début du mois de novembre, on entend du haut de la chaire des prédications sur la nécessité de prier pour les défunts, que c'est notre devoir vis-à-vis de nos proches qui ont déjà quitté cette terre, dont le sort nous est caché. Mais l'Église, notre mère, nous encourage à ne pas y limiter notre pensée. Elle nous fait réfléchir à la mort des autres pour attirer notre attention sur notre propre mort. La mort du prochain qui ne peut nous être plus proche. Et à propos, que nous dit ce prochain? Sûrement, cette question est très importante, très vitale. On l'a vu en tous sens, en tous les sens, au catéchisme, à l'école. Mais moi, je suis encore jeune. Toute la vie m'est largement ouverte. J'ai en vue une jeune fille, très pieuse, qui sera une mère idéale pour mes nombreux futurs enfants. Et pour cette famille nombreuse à venir, il faudra bien sûr une grande maison. Mais pour l'acquérir, un emploi rentable mais nécessaire. À tout cela, je réfléchis nuit et jour. Mais pour la mort, ce n'est pas le bon moment de m'en préoccuper. On vivra, on verra. Pour l'instant, j'ai des projets. Qui parmi nous ne pourrait retrouver là sa propre manière de penser, qui témoigne d'une certaine négligence à considérer notre propre mort? Écoutons le père Kolbe, adressant quelques mots aux religieux de Niepokalanov le lendemain du décès d'un frère. Encore un parmi nous a franchi le seuil de l'éternité. Il faut se rappeler que cela nous arrivera bientôt. Les jours et les semaines passent. Les gens n'aiment pas trop à y penser. D'ailleurs, les religieux non plus. Sans doute, il n'est pas agréable à la nature de penser à la mort. Cependant, cela est très utile aux chrétiens. On peut donner trois raisons de cette utilité. D'abord, parce que la mort est le seul événement dont nous avons une certitude absolue. Deuxièmement, rien n'est aussi incertain que son heure. Enfin, parce que de la mort dépend toute notre éternité. D'abord, la certitude d'avoir à mourir un jour est la seule que nous possédions sur notre avenir. Probabilité statistique 100%. Écoutons saint Augustin. Tourne-toi de toutes parts. Tu ne vois qu'incertitude. La mort seule est certaine. Tu es pauvre, il n'est pas certain que tu deviennes riche. Tu es ignorant, il n'est pas certain que tu deviennes savant. Tu es malade, il n'est pas certain que tu guérisses. Tu es né, il est certain que tu mourras. De toutes ces incertitudes, il n'y a que la mort qui soit assurée. La seconde raison qui doit nous porter à songer à la mort est l'incertitude de l'heure à laquelle elle doit nous frapper. Les uns meurent dans leur lit, les autres sont victimes d'un accident. La mort survient à l'improviste, sans égard ni pour l'âge, ni pour la condition, ni pour les œuvres entreprises. Et cette heure terrible arrive souvent dans le temps où l'homme est le plus oublieux des choses éternelles. Voilà pourquoi il est dit de la mort qu'elle vient comme un voleur. Et le voleur vient dans le temps où les hommes s'abandonnent à la plus grande sécurité. Tant parmi eux se sont levés ce matin en pleine vigueur, qui se trouveront brusquement, avant le soir même, en face de l'éternité. Donc, un peu plus tard, il faudra franchir le seuil de l'éternité. Et celle-ci dépend entièrement de notre mort. Voilà ce qu'a dit à ce sujet un ancien directeur d'un séminaire de la tradition, un nouveau séminariste. Vous pouvez rater tous vos examens. Les séminaristes dressent attentivement les oreilles. Mais le seul examen que vous n'avez pas le droit de rater est celui dernier, celui de la bonne mort, dont dépendra votre bonheur ou malheur éternel. Comment donc pouvons-nous nous préparer pour réussir à cet examen, examen décisif? Mais avant de répondre, demandons-nous, qu'est-ce que la bonne mort? Le monde païen qui nous entoure, et aussi beaucoup d'autres gens, nous disent que la bonne mort, c'est de quitter cette terre sans douleur, le mieux sans conscience. Car la vie s'achève à la mort. Après, il n'y a plus rien. Mais notre foi catholique nous dit toute autre chose. C'est tout simplement la continuation de l'état de grâce jusqu'au moment de la mort. Ou du moins, si l'on se convertit au dernier moment, in extremis, c'est l'union de l'état de grâce et de la mort. Bref, la bonne mort, autrement appelée la grâce de la persévérance finale, c'est la mort en état de grâce, la mort des élus. C'est un don spécial, c'est quelque chose de gratuit. Et chacun de nous se rend bien compte que rien en nous ne peut nous assurer de cette grâce, qu'elle ne peut être obtenue que de celui qui peut conserver dans le bien celui qui est debout et qui peut relever celui qui est tombé. C'est donc de Dieu et de lui seulement qu'il nous faut attendre cette grande grâce. Et c'est plus qu'un pressentiment, parce que celui-ci peut nous tromper. C'est en fait un dogme de foi que la persévérance finale est un don gratuit. Et celui qui dit « don », « grâce », dit en même temps « miséricorde ». C'est donc du côté de la miséricorde de Dieu qui sera le plus avantageux de nous ranger. Voilà notre cible, la miséricorde, qui attend seulement que nous y plantions tout au milieu la flèche qui s'appelle la prière. Mais on sait qu'être un bon archer, c'est tout un art, et qu'il y a des règles pour réussir à son but. La même chose dans la prière. Pour qu'elle obtienne infailliblement les biens nécessaires au salut, et surtout la dernière grâce, il faut qu'elle accomplisse quelques conditions. Il y en a quatre. Qu'on y demande pour soi les biens nécessaires au salut avec piété et avec persévérance. En effet, nous obtenons plus sûrement ce que nous demandons pour nous que ce que nous implorons pour un pécheur qui peut toujours résister à la grâce. Mais même en demandant pour nous les biens nécessaires au salut, la prière n'est efficace que si elle est faite avec piété, on peut ajouter humilité, confiance, et aussi avec persévérance. Ainsi seulement, une telle prière exprimera un désir profond et sincère, non interrompu, de notre cœur. Encore une fois, ne perdons pas de vue la grandeur, la sublimité de la grâce de la persévérance finale et comparons-y nos chétives prières, souvent si imparfaites. Il nous faut donc recourir à une prière la plus grande, la plus efficace de toutes, celle de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, prêtre principal et victime au sacrifice de la messe. Nous devons donc nous unir souvent à la consécration, qui est la partie la plus importante, et surtout en nous unissant aux quatre fins du sacrifice, celui d'adoration devant Dieu, maître absolu de la vie et de la mort, celui de supplication, justement pour obtenir la dernière grâce, celui de réparation pour toutes les fautes de notre vie, et enfin celui d'action de grâce pour tous les bienfaits reçus depuis le baptême. Ce sacrifice ainsi fait pourra nous ouvrir aussitôt les portes du ciel, tout comme il les ouvrit en bon larron mourant à côté de notre Seigneur, quand il achevait de célébrer sa messe sanglante. On dit souvent que nous assistons à la même messe que le bon larron, bien qu'on ne voit pas le sang couler. Mais pourquoi ne pas dire que celui-ci, que le bon larron, assista à la même messe que nous tous en ce moment-là? Et si c'est le cas du bon larron, à plus forte raison de la Sainte Vierge Marie. Plus que personne au monde, Notre-Dame a été associée au sacrifice de son divin Fils. La Reine de douleur a participé à toutes ses souffrances. C'était elle, au pied de la croix, qui plus que Saint Jean, plus que Saint Pierre, plus que Saint Paul, est entrée dans les profondeurs du mystère de la rédemption, en devenant notre co-rédemptrice. Notre-Dame toujours était et continue d'être là où est son Fils. Notre Seigneur s'est offert sur la croix. Sa mère était là. Il continue s'offrir sacramentellement sur les autels. Sa mère est également là. C'est donc elle qui nous aidera à nous unir à la mort de son Fils. La bonne mort par excellence, l'exemple et la cause de la nôtre. Et bien souvent, pour nous obtenir le salut, la Sainte Vierge se sert des petits riens. Écoutez bien. Ça fait plus que 4 siècles que 2 étudiants ne s'occupaient que de plaisirs défendus. Une nuit, ils s'étaient donné un rendez-vous dans la maison d'une femme de mauvaise vie. L'un d'eux n'a pas tardé à s'en aller, mais son compagnon est resté. Celui-là rentrait chez lui et déjà prêt à sauter dans son lit, il se souvient de ne pas avoir récité ce jour-là quelque Ave Maria, comme sa chère maman lui a bien appris. Accablé de sommeil, il se fait pourtant violence et il les récite moitié dormant, puis il se plonge dans le sommeil. Il est réveillé par des coups violents frappés à la porte. Celle-ci s'ouvre d'elle-même, et voilà son compagnon est devant lui, mais tout défiguré et horrible à voir. « Qui es-tu ? » s'écrie-t-il. « Tu ne me connais pas ? » répond l'autre. « Mais comment se fait-il que tu as l'air d'un démon ?»« Malheur à moi !» s'écrie l'hôte nocturne. je suis damné. En sortant de la maison close, j'ai été saisi par un démon qui m'a étranglé. Et quant à toi, sache que le même châtiment t'attendait. Mais la Sainte Vierge t'en a préservé par le pauvre hommage que tu lui rends par les quelques Ave Maria. Chers fidèles, ayant donc une grande dévotion à la Sainte Messe et à Notre-Dame, ce sont les deux colonnes, comme celle de la vision de Saint Jean Bosco, où nous y faut amarrer pour parvenir avec sûreté aux portes du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.